Bonjour Pascal Brice.
Bonjour.
Énarque, diplomate, vous êtes resté 6 ans à la tête de l'OFPRA de 2012 à 2018. L'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et vous venez de quitter vos fonctions, donc, et dans un livre, vous racontez, dans un livre sur le fil de l'asile paru chez Fayard, vous racontez votre expérience face à tous ces destins, ceux qui viennent chercher asile et protection à la France. Vous décrivez aussi la profonde transformation du système de l'asile en France sur fond de crise de l'accueil en Europe. Un mot d'abord peut-être pour définir ce dont on va parler. La mission précise de l'OFPRA, c'est bien de statuer sur les demandes d'asile en rappelant que ce droit d'asile, il est inscrit dans la Constitution, c'est une obligation.
Oui, c'est un devoir codifié par le droit international, la Convention de Genève depuis 1951, dans la Constitution française depuis 1793, depuis la Révolution française. Et l'OFPRA est cette administration qui entend les demandeurs d'asile, chacune et chacun d'entre elles, ces hommes, ces femmes, et statue sur leur demande d'asile au vu de ce que sont leurs craintes dans leur pays d'origine et du droit international.
Vous aimez dire aussi que l'OFPRA doit appliquer le droit d'asile, rien que le droit, mais tout le droit d'asile. Il faut bien faire la distinction, avant d'entamer notre entretien, entre les réfugiés et les migrants dits économiques qui, eux, n'entrent pas dans les critères de l'OFPRA.
C'est tout à fait fondamental parce que la tentation de la confusion est permanente et je constate, et j'ai constaté au cours de 6 années, que cette confusion est très présente dans l'esprit public. Celles et ceux qui relèvent du droit d'asile, ces persécutés, ces hommes, ces femmes qui fuient toutes sortes de persécutions parce qu'elles ont eu un engagement politique, une croyance religieuse, une appartenance ethnique, parfois des homosexuels, des lesbiennes dans certains pays, ou qui fuient des zones de guerre, relèvent du droit d'asile après vérification par l'OFPRA. Et ce ne sont pas les migrants économiques qui sont dans ces migrations pour d'autres raisons. Je dis
pourtant,
souvent,
il y a des craintes d'appel d'air, on va en reparler
après. Ah oui, ça c'est un terme, hélas, que je connais bien, on pourra en reparler, oui.
Pascal Brice, vous parlez d'un examen individuel, minutieux, bienveillant et rigoureux, ce sont vos mots. Les demandeurs sont entendus par un officier de protection, qui sont 2 fois plus nombreux aujourd'hui qu'hier. Quel est le rôle exact de ces officiers ?
Il est tout à fait essentiel. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage parce que j'ai voulu dans ce livre décrire leur travail qui est à la fois d'une grande noblesse et d'une grande difficulté. Leur rôle est de statuer, de préparer la décision de l'OFPRA en écoutant les personnes, en recevant d'abord leur dossier écrit, leur récit écrit, en les écoutant lors d'un entretien tout à fait décisif, d'être en situation encore une fois de croiser ce que sont les craintes de ces personnes dans leur pays, le droit international, et elles font, parce que ce sont le plus souvent des femmes, ils font, encore une fois, un métier d'une grande difficulté, d'une grande noblesse, et j'ai été fier de les accompagner dans ce métier, dans cette transformation pendant ces 6 années de crise.
Ils ne sont pas que dans un bureau, c'est-à-dire qu'ils partent beaucoup en mission. Hein.
C'est l'une des grandes nouveautés que nous avons mises en œuvre, c'est-à-dire que dans ce temps de crise de l'asile, j'ai considéré qu'il fallait lutter contre un sentiment d'impuissance et de fatalité qui occupe beaucoup les esprits et aller vers les demandeurs d'asile. Nous l'avons fait à Calais, dans les grandes villes françaises, outre-mer, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Afrique, au Proche-Orient. Oui, l'année dernière, 50 missions de cette nature, c'est l'une des grandes transformations de l'activité de l'OFPRA et des officiers de protection.
Alors, pour accorder cet asile ou non, l'OFPRA doit statuer et ne doit statuer qu'en fonction du droit d'asile et non pas selon les orientations diplomatiques ou la politique migratoire du moment, selon tel ou tel gouvernement. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, ça n'a pas toujours été le cas.
Ça a été le cas de manière absolue au cours de ces 6 dernières années.
Et avant vous,
Je me prononcerai sur ce qui a été la pratique depuis 6 ans. De manière générale, c'était déjà le cas auparavant. C'est d'ailleurs depuis 2015, dans la loi française, la loi dit l'OFPRA ne reçoit aucune instruction et j'ai appliqué ça de manière très intransigeante. Pourquoi ? Parce que ça signifie que l'OFPRA applique seulement le droit d'asile. Que lorsque vous statuez sur la situation de quelqu'un, vous n'allez pas prendre en considération des problématiques migratoires. Est-ce qu'il y a trop ou pas assez d'étrangers de telle ou telle nationalité dans le pays ? Des considérations diplomatiques de relations avec le pays d'origine. Je cite par exemple la protection d'un réfugié chilien que nous avons eu l'honneur de prononcer il y a quelques mois. L'asile, tout l'asile, rien que l'asile, et c'est cela que garantit l'indépendance de l'OFPRA. Évidemment, c'est un combat. Vous le devinez, lorsque l'on est indépendant, intransigeant, on ne se fait pas que des amis.
Et donc, il y a eu aussi ce que vous avez constaté et que vous appelez des dénis de droit d'asile. Des dénis de droit d'asile, ça ressemble à quoi ?
Ils sont nombreux et ils sont croissants. Parce que le constat que je fais, qui n'est pas très original, vous le savez, c'est qu'en France, en Europe, aux États-Unis aussi, même au Brésil maintenant, le droit d'asile est plutôt en recul. Et ces dénis en France et en Europe, ils sont nombreux. D'abord, dans la capacité des personnes à accéder à la demande d'asile. Au niveau européen, vous le savez, il y a ce fameux système de Dublin qui veut que l'on renvoie les personnes vers le pays européen où ils sont arrivés, l'Italie, la Grèce. Ça ne marche pas. Les gens attendent pendant des mois.
Ça ne marche pas à cause de délais trop longs, notamment. Hein. On est passé entre 6 et 18 mois d'attente.
Oui, et puis notamment parce que ces personnes arrivant en France, parce qu'elles ont laissé des empreintes en arrivant d'Italie en Grèce, sont supposées y repartir, ce qu'elles ne font pratiquement jamais. Donc il y a des défaillances du système européen. Vous le voyez dans les villes françaises encore trop souvent, des gens à la rue, alors qu'elles devraient être hébergées, des délais d'accès à la procédure trop longs. Lorsque les personnes relèvent du droit d'asile, 45 000 personnes l'année dernière en France reconnues réfugiées, les politiques d'intégration sont en panne, parce que c'est l'un des grands problèmes de notre pays, la panne du système d'intégration. Donc,
mais voilà. Il y a beaucoup d'ailleurs qui ne le savent même pas qu'ils ont droit de faire cette demande, et
absolument,
il faut les y pousser.
Vous avez raison, parce que c'est un monde que j'ai essayé de décrire à travers ce récit de ces rencontres, c'est un monde d'errance, et dans lequel l'information est évidemment très incomplète, parfois fausse, parfois manipulée par les passeurs. Les exilés, parfois, certains d'entre eux savent dès le départ où ils vont aller rejoindre la famille, des compatriotes, mais le plus souvent ils ne le savent pas. Et leur faire en sorte qu'ils aient l'information, c'est le travail des administrations, des associatives, des bénévoles auxquels je rends hommage dans ce livre.
Alors, donner le droit d'asile est une chose, mais encore faut-il avoir construit auparavant et préalablement une réelle politique d'intégration. Et vous le soulignez à l'instant, c'est là que le bât blesse.
Oui, parce que lorsque les personnes sont reconnues réfugiées, après l'instruction par l'OFPRA, je le disais, sur les 120 000 demandes d'asile en 2018 en France, 45 000 reconnues réfugiées par l'OFPRA. Alors le devoir de la République est de les intégrer. Et ces personnes sont prises dans cette panne du système d'intégration. Moi, j'ai le souvenir en 2015, à Calais, dans les campements parisiens, vous vous souvenez, dans le 18e, d'avoir à ce moment-là rencontré non seulement des gens qui étaient en demande d'asile, mais des gens qui avaient été protégés par l'OFPRA, réfugiés, et qui étaient à la rue. Donc, sur le plan du logement, de la formation professionnelle, de l'emploi, du partage des valeurs républicaines, il y a là un enjeu majeur et un enjeu de politique publique qu'il faut absolument approfondir pour l'intégration de celles et ceux que nous avons le devoir d'accueillir.
Et à propos de la faillite du droit d'asile en France, vous pointez sévèrement les administrations accusées de multiplier les obstacles. Quel type d'obstacles précisément ?
Ce livre est aussi, entre autres choses, un hommage à des fonctionnaires et à notre État. À leur engagement, à des préfets, à des diplomates, aussi
quelque
à des travailleurs sociaux, des bénévoles. Et puis, il y a
la
bureaucratie. Il y a les technocrates. Je crois que chacun a bien compris que dans notre pays, c'était quand même un des grands verrous qui empêche beaucoup de travailler. Et cette bureaucratie, sur ces questions-là, elle a effectivement ce réflexe culturel que le président de la République a condamné avec des mots extrêmement fermes il y a déjà plusieurs mois, qui est de considérer que si on pourrit la vie des gens, ça va les empêcher de venir. Or, non seulement c'est indigne, mais c'est surtout totalement inefficace. On n'a jamais empêché quelqu'un qui a vécu ce que les exilés ont vécu à travers la Méditerranée, la Libye ou d'autres pays de venir parce qu'on attendrait pendant des mois dans les rues de notre pays. Donc c'est indigne, c'est inefficace. Et tout l'enjeu, à mes yeux, est de progresser dans la mise en œuvre de la feuille de route du président de la République et de dire, dès lors que quelqu'un est dans notre pays, on le prend en charge rapidement, on l'héberge rapidement, on instruit rapidement sa demande d'asile. Vous savez que nous avons beaucoup réduit les délais d'instruction à l'OFPRA. On intègre celles et ceux qui relèvent du droit d'asile et on reconduit celles et ceux qui n'ont pas de droit au séjour.
Vous dites aussi que le droit d'asile serait bien plus efficace s'il ne dépendait pas que d'un seul ministère, l'intérieur et aussi des affaires étrangères, je crois. Mais pourquoi pas le ministère du logement, le ministère des affaires sociales? Ça changerait quoi?
Ça changerait une capacité à avoir une pluralité de regards, d'expertise, de présence sur les territoires, d'engagement. Vous savez, je crois qu'il est temps de regarder, de faire le bilan de la réforme de 2007. Parce qu'avant 2007, c'était le cas. Vous aviez plusieurs ministères, les affaires étrangères, l'intérieur, les affaires sociales, qui avaient en charge la politique de l'asile. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de réenrichir cette gouvernance des politiques de l'asile au niveau national avec des ministères qui soient capables de gérer ce qui relève du social, de l'accompagnement social, de l'hébergement, de la négociation européenne et diplomatique, sur les territoires avec le monde associatif, si engagé dans ces politiques, avec les élus, je pense aux maires. Oui, je pense qu'il est temps de réenrichir la gouvernance de cette politique pour répondre aux exigences du temps et notamment aux objectifs fixés par le président de la République.
Pascal Brice, Ancien directeur de l'OFPRA, vous publiez ce livre sur le fil de l'asile. 6 années à la direction de l'OFPRA, le livre paraît chez Fayard. Vous y racontez votre expérience, vos rencontres aussi avec les demandeurs d'asile.
Patrice, oui, c'est un livre formidable, je dois dire, qui est à visage humain et qui est à hauteur d'homme. Quelquefois d'ailleurs, pour être à hauteur d'homme, quand on est un fonctionnaire, il faut se mettre par terre pour parler aux réfugiés, parce que c'est là qu'ils vivent, assis par terre. Le premier visage du monde des mineurs en exil, et ça c'est un passage que j'ai trouvé très émouvant, Pascal Brice, dans ce livre, c'est Naher, qui avait à l'époque où vous l'avez rencontré à peu près 12 ans, un érythréen qui était là avec sa mère. C'était à Calais ?
Oui, c'était à Calais en 2015, parmi ces premiers moments où je me suis rendu avec des bénévoles du Secours catholique dans ce qui était la jungle à l'époque. Mmh. Et Naher était là, il faisait froid, il jouait au football. Et j'ai une grande passion pour le football. Et je voyais cet enfant, il avait 12-13 ans à l'époque, à la fois heureux de jouer au football, mais je le voyais jouer avec des adultes. Sûrement très bienveillant, mais ce monde de l'exil, c'est aussi le monde de ces très jeunes enfants. Et vous imaginez ce qui peut se produire pour des enfants dans ce monde-là. Sa mère était là, sa mère qui avait vécu ce qu'hélas beaucoup d'Érythréens et d'Érythréennes ont vécu, l'obligation à quitter ce pays où un service militaire ubuesque emprisonne les gens à vie, le drame de la traversée de la Libye, de la Méditerranée, les réseaux d'exploitation sexuelle. Donc oui, Naher reste pour moi l'un des visages de cet exil.
Pascal Brice, je vais lire un extrait de votre livre. Dans ce long couloir que traversent les exilés, l'asile reste une des rares lumières encore allumées, mais cette lumière vacille, écrivez-vous. Certains voudraient l'éteindre. Alors quelle réponse ce matin apportez-vous à ceux qui pensent que le droit d'asile pour les réfugiés est d'abord une porte d'entrée pour l'immigration économique ?
Je crois qu'il faut être lucide, c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, comme j'ai essayé de le faire pendant 6 mois. Cette question se pose. Dès lors que depuis 30 à 40 ans, les politiques migratoires ont été progressivement restreintes, je ne porte pas de jugement, ici on peut en discuter par ailleurs, la réalité c'est qu'à partir du moment où vous faites cela, la migration économique légale est de plus en plus réduite, la seule porte ouverte c'est l'asile, parce que c'est, vous l'avez rappelé, une obligation constitutionnelle. Je pense aussi que c'est le plus profond de ce qu'est notre humanité. Que serions-nous si nous n'accueillions plus les persécutés.
Et les persécutés, avec le drame syrien, avec la menace terroriste aussi, ça a joué beaucoup, plutôt en leur défaveur.
Mais bien sûr, ça fait partie, vous avez raison de le rappeler, de la lucidité. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu vraiment être au plus près de ce qu'est la réalité, je crois, de notre pays. À la fois des enthousiasmes à accueillir, que je décris, et aussi des inquiétudes. Parmi les inquiétudes, il y a eu quand, à la fin 2015, des gens sont passés par le flux des migrants pour commettre des attentats terribles à Paris. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, nous avons sans cesse renforcé les dispositifs de vigilance à l'OFPRA dans le cadre légal pour lutter contre ce risque terroriste qui est marginal mais qui existe. Et donc, cette lucidité-là, elle conduit, pour pouvoir défendre le droit d'asile, développer des dispositifs d'accueil qui soient des dispositifs organisés et maîtriser. Mmh. Respecter pleinement le droit d'asile au moment où, en effet, certains disent « Non mais attendez, il y a un problème, des gens viennent demander l'asile, 40% en France sont reconnus réfugiés, mais 60% sont déboutés, beaucoup restent là, et donc du coup il faudrait remettre en cause le droit d'asile. » Non. Il faut pouvoir organiser le droit d'asile, notamment au niveau européen, et de manière à répondre à cette situation-là. Et puis, finalement, sans doute aussi, j'y insiste, préserver totalement le droit d'asile dans sa spécificité absolue, mais sans doute aussi ouvrir la réflexion sur la politique migratoire par ailleurs.
Vous venez de le dire, Pascal Brice, encore faudrait-il coordonner les politiques d'asile, de droit d'asile au niveau européen. Les prochaines élections européennes risquent de faire la part belle aux partis d'extrême droite et partis populistes. Ça pourrait avoir quelles conséquences en France sur le fonctionnement ou la marge de manœuvre de l'OFPRA ?
Vous savez, ça, je l'ai vécu au cours de ces 6 années, je le décris, cet enchaînement européen. Hélas, nous avons vu venir, il fallait pas être grand devin pour savoir que l'absence de solidarité de la part de pays comme la France et l'Allemagne vers l'Italie ou la Grèce, le fait aussi que les Italiens n'ont pas pris leurs responsabilités pendant cette période, parce que les demandeurs d'asile ne sont pas restés en Italie. Et donc il y a eu...
En même temps, les Italiens nous reprochent d'avoir de beaux discours, mais de ne pas accueillir grand monde.
Et ce qui n'est que partiellement vrai, puisque lorsque l'on regarde les chiffres, c'est d'abord l'Allemagne qui a accueilli un million de personnes
par rapport au nombre d'habitants. Il faut aussi calculer le nombre d'habitants
dans cette moyenne. C'est tout à fait vrai, mais en ce qui concerne les Italiens, je crois que si l'on est objectif, on rappelle que, un, nous n'avons pas été solidaires. Nous n'avons pas été solidaires. Le système de Dublin qui dit il faut que les gens repartent en Italie a été catastrophique, a alimenté la dérive politique en Italie. Mais les Italiens n'ont, je le redis, pas pris leurs responsabilités. Ils ont laissé passer les gens. Donc aujourd'hui, nous payons tout cela au prix fort. Les migrants, les réfugiés sont les catalyseurs d'une crise européenne qui les dépasse, qui va bien au-delà d'eux. Les solutions, elles existent. Nous les avons mises en œuvre, je le rappelle dans ce livre, à travers ces missions de protection auprès notamment de l'Aquarius, en Espagne, en Italie, à Malte. Il faut mettre en place une agence européenne indépendante. C'est tout à fait vital pour le droit d'asile et pour l'unité de l'Europe dans ce moment de grave crise.
On en prend le chemin ?
Les solutions sont là. Elles sont sur la table du Conseil européen. Nous avons voulu les mettre en œuvre de manière très concrète et opérationnelle. Je dirais que la tendance générale à travers le monde, je le rappelais, n'est pas bonne. Il y a la tentation qui m'inquiète beaucoup en Europe, qui n'est pas nouvelle, de dire, bon, puisque les Européens sont incapables de se mettre d'accord, on va faire gérer ça par les pays hors d'Europe. L'externalisation du droit d'asile, qui serait vraiment un recul terrible. Donc les solutions existent, elles doivent pouvoir être mises en œuvre.
Et la faillite au passage du système de Dublin que vous décrivez dans ce livre. Ce livre sur le fil de l'asile, 6 années à la direction de l'OFPRA. Votre successeur n'a pas encore été nommé d'ailleurs. Ça commence à inquiéter quelques associations. Qu'est-ce qui coince à votre avis ?
Écoutez, c'est un processus de nomination qui peut parfois prendre du temps. C'est la décision du président de la République en lien avec le gouvernement et le Parlement.
Ça, c'était la réponse bien correcte, mais alors
voilà,
maintenant la vraie réponse.
Voilà, je vous ai fait la réponse correcte et je vais le rester parce que je suis un fonctionnaire, que j'ai vraiment toute confiance dans la décision du président de la République. Ce qui est vrai, c'est que vous voyez bien ces 6 années d'une intensité extrême. J'ai sans doute, pour ma part, touché un peu aux limites de ce système. La peur de l'appel d'air, la tentation de mélanger les choses avec la politique migratoire. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, il est que cet acquis soit préservé. Encore une fois, j'ai toute confiance en la décision du président de la République.
Vous auriez pu être renouvelé, vous ?
Vous auriez aimé être renouvelé ?
Écoutez, la décision du président, j'étais disponible pour le faire.
D'autant que vous avez mis en place tous les leviers sur lesquels vous auriez pu agir pour renouveler le droit d'asile en France.
Oui, j'aurais été heureux de le faire, même s'il n'est pas malsain au bout de 6 ans de passer la main après 6 années aussi intenses. Je crois que le livre le montre bien. Mais j'étais disponible pour construire quelque chose de plus ambitieux qui tire les leçons des dysfonctionnements. Ça n'est pas totalement d'actualité. L'actualité, l'enjeu, c'est évidemment de préserver cet acquis. Et je n'ai aucun doute que ce sera le cas.
Eh bien, merci Pascal Brice d'être venu le dire ce matin sur France Inter. Je rappelle le titre de votre livre sur le fil de l'asile, 6 années à la tête de l'OFPRA. Le livre est paru chez Fayard et on y lira pas mal de solutions pour mieux comprendre d'abord le parcours de ceux que ça concerne en premier et puis aussi les réformes attendues sur ce droit d'asile en France. Merci beaucoup Pascal Brice et bonne journée.